Je vous informe que ce podcast est entièrement réalisé avec des voix humaines.
En fait, plus je progresse et plus j'ai l'impression que je sais rien et que j'ai rien à dire. Je me suis dit, je vais faire un podcast pour dire bah j'ai plus rien à dire parce qu'en fait, c'est-à-dire que beaucoup de certitudes s'effondrent quand tu progresses. Ta vision, elle change, elle se transforme. Et il y a une période où j'avais beaucoup plus l'impression d'être un sachant, parce que notamment je lisais beaucoup de livres sur le tai chi, tout ça. Aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que je sais plus rien, quoi. J'ai rien d'intéressant à dire. Alors comme je parle facilement, je peux parler, hein, mais est-ce que c'est si pertinent? Je ne sais pas. Bref.
Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes, et plus particulièrement le tai chi chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaiji.fr. hmetaiji.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast où nous allons avoir une petite discussion avec Jules, qui est là en stage, et puis éventuellement peut-être d'autres personnes qui, si d'autres intervenants veulent se manifester, on verra bien. En tout cas, voilà, on va discuter un petit peu avec Jules. Je crois que tu avais préparé des questions. Ah, bonjour Jules.
Bonjour.
Parle bien proche du micro.
Ouais.
Plus.
Plus proche.
Ouais, vraiment micro. Collé.
Ok, vraiment collé.
Ouais, comme un professionnel.
C'est comme ça qu'ils font les professionnels.
Qui es-tu Jules?
Eh ben moi je suis ton élève, figure-toi. Je ne sais pas si tu avais remarqué.
D'accord. C'est comme ça que tu te définis dans la vie?
Ouais, c'est ça. Quand je vais, bonjour, je suis Hertel, élève de Julien Desbordes. ouais, c'est devenu mon identité maintenant.
J'aime ça.
Donc ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés. Premier stage avec toi, c'était il y a 4 ans, à peu près pile. C'était en janvier 2022.
Ah ouais.
Donc comme quoi, le temps passe vite. Et ouais, du coup, il y a des sujets qu'on avait abordés un peu au détour de conversation pendant des repas et tout ça. Et je trouve que c'est des sujets intéressants. Mmh. Et je pense que c'est aussi des choses qui peuvent être utiles aux personnes qui écoutent et qui voudraient se lancer dans la pratique pour peut-être gagner du temps, on va dire, dans l'état d'esprit dans lequel ils peuvent se placer pour s'entraîner et progresser.
Donc, oui, tu auras peut-être plus de choses intéressantes que moi à dire là-dessus, donc on verra.
Oui, c'est vrai que mes débuts, du coup, sont plus récents, donc j'ai plus de souvenirs.
Ah, tes débuts sont plus récents, peut-être. En tout cas, dans cette école, oui.
Oui, dans cette école, du coup, c'est...
Comment dire? Oui, parce que tu es...
La mémoire est plus proche.
Tu as démarré avec moi il y a 4 ans, mais tu as un parcours Qigong, Kung Fu...
Voilà, d'arts martiaux...
Qui est bien plus ancien que ça.
Voilà. Mais du coup, en abordant HME, j'ai quand même dû faire un switch... on va dire, un changement d'état d'esprit dans la manière de m'entraîner. Voilà, c'est une bonne mise à jour quand même à faire dans la manière de concevoir l'entraînement et de concevoir qu'est-ce qui fait progresser et du coup, qu'est-ce qui sont les signes de notre progrès et tout ça. Et du coup, bah, là, ça m'amène à la première question, c'est que dans la plupart des sports, on mesure quand même les progrès de manière assez quantitative. Donc, si je commence à faire des pompes, plus je vais progresser, plus je vais arriver à faire de pompes. Et je ne sais pas où je vais arriver à soulever plus lourd ou à courir plus vite. Et du coup, bah, la question, ce serait, est-ce que c'est pareil en tai chi? Et sinon, si c'est différent, comment est-ce qu'on mesure les progrès quand on fait du tai chi?
Très bonne question. oui, donc effectivement... dans à peu près toutes les disciplines sportives. Pas forcément toutes, hein, je pense, mais en tout cas, tout ce qui est musculation, effectivement, on va pouvoir mesurer nos progrès par rapport au poids qu'on est capable de porter, au nombre de répétitions qu'on est capable de faire, au temps aussi, à l'endurance, quoi. Le cardio aussi, on peut le mesurer. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut mesurer. Après, les performances, je sais pas, d'un footballeur, c'est peut-être déjà un petit peu plus difficile à...
Ben, tu peux mesurer
le nombre de buts.
Par exemple, la précision des tirs, oui, par le nombre de tirs qu'il met dans le... Enfin, maintenant, il y a plein d'outils compliqués pour mesurer précisément où est-ce qu'ils mettent les frappes, à quel endroit du cadre et tout ça. Donc,
c'est vrai.
Ouais. C'est... Même en tennis, il y a la vitesse du service. Maintenant, ils arrivent à voir où est-ce qu'ils mettent les balles et s'ils sont proches des lignes en moyenne ou pas.
Est-ce que c'est les sportifs les plus performants qui gagnent ? C'est encore une autre question. Ouais, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup d'études là-dessus. Mais effectivement, il y a plein de... Même dans l'art. Hein, moi, j'étais musicien. En musique, on peut facilement évaluer nos progrès quand même. Mm. Sur notre capacité à jouer un morceau, à le jouer plus vite, à le jouer mieux, etc. Donc, il y a des choses vraiment quantifiables. En tai-chi, c'est un peu plus compliqué. Effectivement. Mm. D'évaluer nos progrès. Déjà, c'est quoi le tai-chi ? Enfin...
bon, parlons, là.
Grosse question. Non, je reformule autrement. En quoi consiste l'entraînement au tai-chi ? Ce qu'on appelle l'entraînement au tai-chi.
Oui.
Donc déjà, bien sûr, je répète toujours, donc moi, je parle de l'expérience de l'école dans laquelle on pratique, hein, donc Evenman Earth. Et parce qu'il existe tellement de façons de faire, donc il y a des personnes, peut-être certaines personnes qui écoutent ce podcast, votre pratique du tai-chi, peut-être c'est juste faire des mouvements lents. J'ai déjà entendu, il y a des personnes, par exemple, qui prennent des mouvements de karaté ou de kung-fu et qui les ralentissent et qui disent c'est du tai-chi.
Ouais.
C'est peut-être pas le plus commun, hein, mais ça arrive. Donc déjà, il faut s'entendre sur de quoi on parle. Est-ce que c'est juste faire la forme ? Est-ce que c'est juste faire un enchaînement ? En quoi consiste l'entraînement ? Parce que c'est ça qu'on va mesurer. Les progrès, ils vont se mesurer par rapport à ça. Notamment, peut-être d'autres choses aussi, on verra après. Mais... Donc déjà, il faut identifier qu'est-ce qu'on fait. Donc nous, dans notre école, si je prends basiquement le premier système, je rappelle que dans notre école, il y a trois systèmes. Ce qui veut dire trois systèmes d'entraînement, trois technologies et trois systèmes, ça veut dire ensemble d'exercices et de pratique. Donc si je prends le premier système, quand on commence, on a donc un set d'ouverture, donc un ensemble d'exercices pour ouvrir le corps. Ensuite, on a la série de postures statiques. Ensuite, on a la série de son gong. Mmh. Ensuite, on a la forme, donc l'enchaînement. Et ensuite, on a, on va dire, toutes les pratiques avec partenaire, tous les patterns à deux, etc. Donc déjà... Ça veut dire que j'ai dit combien de choses là ? 6 ?
Ouais.
J'ai 6 choses dans lesquelles je peux mesurer mes progrès. Ouais. Pardon ?
Non, ouverture, posture, son gong, forme et twichu.
D'accord, 5. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit 6. Peut-être un autre truc secret. Donc déjà, il y a comment j'évalue ma progression dans les ouvertures, comment j'évalue ma progression dans les postures, comment j'évalue ma progression dans les son gong, comment j'évalue ma progression dans... la forme
et dans le travail avec partenaire.
Voilà, volume, progression dans le travail avec partenaire. Sachant que, bien sûr, ce n'est pas si isolé. C'est-à-dire que les progrès que je peux voir dans le travail avec partenaire vont refléter des progrès que j'aurais fait dans ma forme, etc. Oui. Mais moi, j'aime bien clarifier en disant, OK, tu veux mesurer quelque chose. Bah, OK, si tu veux mesurer, il faut savoir qu'est-ce qu'on mesure. Maintenant, donc, c'est un angle de vue. Ça veut dire, bah, les ouvertures, je veux augmenter l'ouverture articulaire. C'est la première chose qu'on veut ouvrir. Donc, est-ce que je peux mesurer l'amplitude d'ouverture articulaire ? Ouais, je peux mesurer un peu. Je peux observer le niveau d'ouverture que j'ai par l'amplitude de mouvement que j'acquiers. Donc, je peux voir, tiens, avant, j'arrivais pas à faire ce mouvement, maintenant, j'y arrive. Ouais. Tiens, ma main, elle ne pouvait pas aller à cet endroit, maintenant, elle peut y aller, mon bras, mon épaule, etc. Donc là, il y a quand même...
Quelque chose qui est quantifiable. Voilà.
Et ce que je peux quantifier, c'est exactement la raison... Pas tout à fait, en fait, non. Une partie de pourquoi je fais ça, c'est de libérer le corps. Donc, je peux mesurer si je suis plus mobile. Donc, c'est bien. Oui. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est de l'ouverture dedans. Ça, c'est plus difficilement quantifiable déjà.
Oui.
Donc, comment je vais pouvoir quantifier ça ? Ben, dans les autres, aspects de mon entraînement. C'est-à-dire dans la forme, peut-être dans les songongs, dans les postures et quand mon partenaire va pousser. C'est-à-dire dans le travail à deux, je vais pouvoir plus me rendre compte des progrès que j'ai fait en termes de est-ce que mon corps est plus ouvert ou pas. La deuxième chose qu'on entraîne, donc, c'est les postures statiques. Les postures statiques qui sont faites pour travailler la posture, l'aspect postural. Réutiliser l'ouverture acquise dans mes exercices d'ouverture pour maintenir cette ouverture et ensuite apprendre à séparer la chair du squelette et faire descendre le chi. En faisant ça, donc là on est sur un point, je pense, c'est-à-dire quand on pense à progression, on pense quand même pas mal aux postures, je pense.
Ouais.
Parce que bah, oui, c'est toujours le moment le plus difficile, le plus éprouvant. Ça crame les cuisses, etc. Et donc, quand on parle de. Quand on fait le rapprochement avec bah, de la musculation, etc.,
ouais.
On peut penser aux postures. Ça veut dire comment je peux voir que je suis en train de progresser dans mes postures.
Est-ce que ça veut dire. Est-ce que tu progresses dans les postures si tu arrives à les faire plus longtemps ?
Voilà. Donc, c'est là où on a un truc qui n'est pas commun, je dirais, qui peut paraître paradoxal, mais. C'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas ça dépend d'où on part. Je vais faire des généralités, mais pour essayer de détailler un peu plus le truc, quelqu'un qui est très sportif, qui a des cuisses très musclées et qui commence à faire les postures telles que nous on les fait, il y a des chances qu'il tienne, en fait, que ça lui pose pas trop de problèmes.
Ouais.
Au début, de tenir un peu. Donc nous, dans notre école, on fait jamais plus de 30 minutes. Généralement, le standard, c'est 25 minutes.
Oui.
Et il est possible que bah, ça aille, quoi. Et moi, ça m'arrive régulièrement de faire des sessions avec des gens qui démarrent. Si c'est des sportifs, etc., ça va aller. Ça va pas être si éprouvant. Maintenant, si je prends cette personne, ça va lui prendre du temps. Mais si elle commence à progresser vraiment, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile.
Ouais.
Parce que les résistances sur lesquelles elle tenait, comme on va relâcher, on va apprendre à relâcher, notamment, enfin tout, hein, relâcher le maximum possible. Le plus on va s'améliorer en termes de position structurelle, le plus ça va atteindre les jambes, et le plus on va relâcher, le plus les jambes, ça va traverser les jambes, et donc le plus les cuisses vont cramer. Donc le meilleur on devient, le plus ça va brûler. Okay. Maintenant, quelqu'un qui démarre et qui n'a jamais rien fait, qui a les cuisses, on va dire, pas très développées,
ouais.
Les jambes pas très développées de base, même je veux dire sportivement, peut-être que ça va être éprouvant dès le début pour elle.
Oui.
Donc ça va plutôt peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire que ça va s'améliorer, elle va pouvoir tenir de plus en plus parce qu'elle va se muscler les jambes, elle va se renforcer les jambes à force de faire du tai chi. Il y a les postures, mais il n'y a pas que hein, le fait d'être toujours en flexion quand même, on est beaucoup en flexion en tai chi, oui. De monter, descendre, etc. Ça travaille quand même beaucoup les jambes. Donc elle va peut-être se muscler les jambes, ça ira mieux. Oui. Et puis après, elle va vachement s'améliorer, cette personne, et ça va redevenir difficile.
Oui.
Mais il y a forcément un moment donné que le début commence directement par ça va et ça devient plus difficile ou que c'est. L'inverse, il y a un moment donné, quand on va progresser, en fait, ça va forcément être beaucoup plus dur et de plus en plus difficile. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais correctement, ça devrait être impossible de tenir correctement dans notre manière de faire. Hein. Attention, je ne dis pas que ceux qui font 2 heures, c'est nul. Je dis juste ils ne font pas la même chose que nous.
Oui.
Et nous, ce qu'on fait, c'est juste très difficile. De vraiment relâcher avec une bonne structure, c'est juste terriblement difficile. Et le plus le corps est connecté, le plus ça devient dur. Donc, en fait, ça, c'est l'expérience de toutes les personnes que j'ai vues ici. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast qui ne se sentent pas concernées, qui croient que oui, mais pas moi. Mais en fait, quand tu fais cet entraînement-là, c'est juste la même expérience pour tout le monde. C'est que ça devient plus difficile, forcément. Et donc, tu te mets en posture et très, très vite, tu as déjà les cuisses en feu.
Ouais, voilà. Je confirme.
Donc, là où... disons que dans un autre sport, si je prends la musculation, est-ce qu'on l'exemple qu'on prenait tout à l'heure.
Ou le kung-fu, moi je sais que j'avais la fierté de pouvoir tenir 10 minutes en mapu. Parce que avec la force de la volonté et de ma contraction musculaire, j'arrivais à tenir 10 minutes, un quart d'heure dans une posture. Et un signe de progrès pour moi, ça aurait été de pouvoir tenir plus longtemps. Et là, je vois que cette manière de faire s'effondre complètement avec le tai chi qu'on pratique. Et que faire le switch mental de me dire, c'est pas parce que j'arrive à tenir plus longtemps que je le fais mieux. Et même si j'arrive à tenir moins longtemps, c'est sûrement le signe que je le fais mieux parce que ben, c'est plus inconfortable et c'est plus intense. Du coup, ça peut paraître bizarre au début comme état d'esprit. De se dire, mieux je vais le faire, moins je vais arriver à le faire longtemps. C'est pas facile, on met du temps à s'habituer à ça.
C'est pour ça que je prenais l'analogie avec les poids. C'est-à-dire que tu fais, je sais pas, tu portes un certain poids tous les jours et puis tes muscles, donc, tu fabriques du muscle. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir porter plus. Et en fait, l'équivalent de rajouter des poids pour nous, c'est améliorer la posture et songer plus.
Ouais.
Et le fait de songer plus, c'est comme si tu rajoutais des poids, en fait.
Oui.
Et c'est pour ça que ça fait que la difficulté, elle augmente avec la qualité. La qualité, elle va correspondre à l'augmentation de poids ou l'augmentation d'un nombre de répétitions. Mais effectivement, de penser, je dois durer longtemps, le corps, et c'est là où je pense, par rapport à ta question, qui est avoir le bon état d'esprit, quoi, quand ouais. on démarre avec ça. C'est le simple fait de penser, il faut que je tienne longtemps, va faire que inconsciemment ton système va tout faire pour tenir longtemps.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il va faire pour tenir longtemps? Tu vas monter en haut, tu vas crisper les épaules, tu vas avoir ton attention en haut du corps, tu vas fuir, tu vas penser à autre chose, tu vas arrêter de relâcher, tu vas te contracter. En fait, tu vas faire exactement tout l'inverse de ce qu'on s'entraîne à faire.
Ouais.
Parce que c'est ça qui va te permettre de tenir longtemps. Donc, c'est pas la bonne chose. C'est pour ça que je reviens. Suis les instructions, ça veut dire ne suis pas autre chose que ça. Donc l'instruction, c'est jamais tu dois tenir longtemps.
Ouais.
Maintenant, en disant ça, bien sûr, l'esprit va se saisir de ça et va se dire, ah, mais il ne faut pas tenir longtemps, d'accord. Donc il va se dire, bah, je peux lâcher facilement, vite fait. Mais ce n'est pas ça non plus.
Et c'est, ça que c'est, et c'est là que le, comment dire, que le jeu commence.
C'est ça.
Je trouve, c'est dans c'est un espèce de négociation infinie avec soi-même. Et de voir qu'en fait, on tient longtemps parce qu'on dit qu'il faut tenir 5 minutes. Donc, on tient les 5 minutes. Mais pour tenir les 5 minutes, on contracte. Et après, on nous dit, en fait, il faut relâcher. Et si c'est pas grave si on ne tient pas jusqu'au bout. Il vaut mieux le faire correct. Et du coup, on utilise ça pour remonter avant la fin parce que c'est inconfortable. Et du coup, je trouve que c'est là que qu'on fait des allers-retours un peu entre les deux. Et que en fait on est et que le fait de comment dire parce que l'instruction c'est fais la posture parfaitement, relâche le plus possible et tiens les 5 minutes. Ça, enfin c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est très difficile. Du coup, on va forcément il y a forcément un des trucs qui va sauter, une des instructions qu'on va faire sauter pour rendre le truc plus confortable.
Je vais le formuler autrement, du coup. C'est en fait, en gros, mets tes paramètres les plus corrects possibles.
Ouais.
Sois correct et en dur.
Ouais.
Voilà. Donc en dur. Si tu peux endurer 5 minutes, tant mieux. Parce qu'en fait, j'ai coutume de dire, quoi que je vous dise, le mental va se saisir de ça et l'utiliser pour fuir l'expérience et la difficulté.
Oui, c'est son job.
Ouais. Et nous, on s'entraîne notamment à déprogrammer notre réponse de combat et de fuite. C'est un des intérêts des postures aussi derrière. Donc, il n'y a pas de formule magique, c'est juste qu'il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que j'en parle régulièrement, qu'il faut reclarifier les choses pour remettre l'esprit sur les rails. Puis hop, il dévie, on remet sur les rails. Et, je me rends compte que je fais ça, que je fais autre chose. Que j'utilise telle stratégie, etc., pour développer notre capacité à endurer de plus en plus, en restant calme et tranquille et en faisant les choses correctement. Et voilà, et on a besoin encore une fois de partenaires, de professeurs pour nous corriger et nous montrer qu'on est en train de partir. Mais c'est, je dirais, c'est l'intérêt, c'est de voir ce que ça nous fait, ce que la difficulté nous fait, et de changer ça.
Ok.
Voilà. Mais après, voir les progrès, c'est difficile parce que Donc je disais, le mieux tu fais, plus ça crame, plus ça devient dur et difficile, et vite et rapidement.
Oui.
Mais c'est pas parce que ça crame et que ça devient plus dur et plus rapidement que ça veut dire que tu as progressé.
Oui.
Ça veut dire que dans un sens, ça marche, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que si tu te rends compte, ouais, ça devient de plus en plus facile, certainement pas en plus les 5-10 premières années.
Non.
Si tu te rends compte que ça devient plus facile les postures, c'est certainement que tu es en train de feinter et il y a un truc. Par contre, c'est pas parce que ça devient plus dur que forcément tu progresses.
Oui.
C'est pas 100% fiable.
Ouais.
Donc, la manière de voir nos progrès en posture, c'est d'être poussé par un partenaire. Et de travailler à plusieurs, d'avoir le professeur qui nous dit « Ah, t'as progressé », d'avoir quelqu'un qui nous pousse, de sentir qu'on est plus transparent, qu'on sent moins la force de l'autre quand il nous pousse, que ça nous pose moins de problèmes, qu'on est moins réactif, etc. C'est là où on mesure nos progrès dans les postures.
D'accord. Du coup, il y a tout un tas d'aspects de la pratique, d'après ce que tu dis, comme la coolitude qu'on appelle, le calme dans l'esprit, l'ouverture, la tranquillité, tu parlais de transparence du corps par rapport à la force. Tout ça, ce n'est pas des paramètres quantifiables avec un nombre ou un truc. Il faut quelqu'un pour l'apprécier, il faut quelqu'un pour te toucher, qui soit capable de l'apprécier, qui soit capable de te le dire.
Ça va être dur avec l'IA de voir des progrès.
C'est du qualitatif, quoi. Il y a aussi beaucoup de qualitatif dans le tai chi et de choses qui ne sont pas quantitatives, j'ai l'impression. Ouais.
Tu vas peut-être mesurer aussi les progrès de tes postures parce que dans la vie, tu vas te sentir plus cool et moins réactif, tu vois, face à certaines situations, etc. Quoi.
Ouais. Voilà. Okay.
Donc après, on revient à pourquoi tu t'entraînes. Par exemple, si je fais de la muscu, c'est pour être plus musclé. Donc c'est facile parce que je peux voir que je deviens plus musclé parce que je pars plus lourd. Donc il y a un truc assez direct.
Ouais. Tu vois. Le feedback.
Il y a un feedback direct, etc. Par contre, pourquoi tu fais du tai chi? Est-ce que ça t'apporte que... Tu vois, des fois, c'est pas directement. Je fais du tai chi pour être plus cool dans la vie, bah, faut que je reste dans la vie. Enfin, c'est pas si simple, en fait.
Et les bénéfices peuvent être là où tu les attends pas, des fois.
En plus. Ouais. Et donc, c'est peut être des choses qu'on voit pas parce qu'on regarde pas là, à cet endroit-là. Tout à fait. Yes. En tout cas, de manière directe, ça va être le travail à deux. Voilà, je vais résumer, en fait, hein, que ce soit dans les songong, dans la forme... C'est en fait avec un partenaire que tu vas vraiment pouvoir évoluer tes progrès plus facilement. Parce que tout seul, on peut avoir l'impression que vas-y, je suis vachement plus relâché, etc. Mais ouais, mais si personne te met une pression, et est-ce que tu vois, tu te mets dans un lit et tu te relaxes et tu peux dire ouais, j'ai vachement progressé, je suis vachement plus relaxé aussi. Mais
oui.
Tu vois, c'est pas. Voilà. Par contre, je sais pas, tu as des problèmes de sommeil, tu fais du tai chi, tu dors mieux, bah voilà, tu peux voir des progrès. En tout cas, des progrès dans ce que ça t'apporte. Des progrès dans la discipline même, à moins de faire ça pour faire du tuishu, des compétitions de tuishu, peut-être tu vas avoir des progrès parce que tu gagnes plus souvent.
Ouais, voilà. Mais est-ce que tu gagnes en contractant et en.
C'est pas dans. Voilà, c'est
en
pas
en
forcément.
Correctement.
Exactement. Donc c'est pas forcément comme ça que moi je conçois les choses, parce que c'est pas la raison pour laquelle moi je pratique. Donc on va parler dans d'autres cadres, d'autres styles et d'autres pratiques, toi.
Ouais.
Après, moi je peux voir mes progrès. Par exemple, dans ma capacité à ne pas être embêté par des poussées. Tu vois, quand vous, les élèves, ou des gens que je ne connais pas, des stagiaires, des gens qui viennent et qui me poussent, etc. Et je vois bien que je suis beaucoup plus stable et que ça m'embête vachement moins et que c'est plus facile pour moi. Okay. Donc là, je vois bien qu'il y a des progrès.
Voilà, c'est l'aspect concret, quantifiable, sachant que ces progrès n'ont un sens que parce que tu arrives à rester cool à l'intérieur.
Exactement.
Si tu arrivais à gérer ces poussées, mais que c'était au prix de ton équilibre intérieur,
Bah,
tu n'aurais pas vraiment progressé.
Oui, oui.
Parce qu'il y aurait. Enfin, moi, je pense que ce système de tai chi, quelqu'un qui voudrait gagner les championnats de France de tuishu, je lui conseillerais sûrement de plutôt faire de la lutte ou faire un autre truc qui l'amènerait à son objectif plus rapidement.
Ouais, ou d'autres styles de tai chi, des écoles
de tai chi,
qui axent leur pratique là-dessus et qui cherchent vraiment ça, quoi, l'efficacité l'efficacité de lutte, de etc. Oui, c'est sûr.
Parce qu'il y a quand même une priorité ici de rester cool, de
c'est ça.
Travailler.
Et puis moi, c'est pour ça que je pratique, donc forcément, je mets beaucoup d'accent là-dessus. Après, il y a aussi dans la manifestation des jin, quand même, tu peux voir des progrès.
Ouais.
Dans la capacité à générer ce type de puissance. Donc là encore, tu mesures avec des partenaires avec qui tu t'entraînes, etc. Quoi. Et c'est effectivement, là aussi, c'est très particulier, j'en parlais tout à l'heure, mais le mieux tu fais, le moins tu le sens. Tu sens pas la puissance en toi.
Oui.
Donc tout seul, tu as l'impression qu'il se passe rien. Donc il faut qu'il y ait un partenaire. Tu fais le truc et tu vois que l'autre y part. Ah bon, d'accord, ça fait ça en fait. Ouais. Et donc là, encore une fois, tu as besoin de quelqu'un qui te montre le produit de ce que tu fais. Sinon, tu te rends pas compte quoi, tout seul. Ouais, c'est particulier, Tachi. Hein, c'est... J'ai envie de dire, quelque part, des fois, il faut même oublier. Enfin, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce qu'il faut quand même, quand tu t'entraînes, tu veux voir qu'il se passe un truc quand même, tu vois.
Ouais.
Mais des fois, il faudra presque s'en foutre de progresser, tu vois. Juste, donc, tu fais ton truc. Et juste de voir que ça t'apporte quand même réellement ce pourquoi tu t'entraînes. Ça fait plein de fois, hein, je crois, je le redis, je le répète. Mais pour moi, c'est une question primordiale, c'est pourquoi on s'entraîne.
Ouais.
Parce que moi j'ai beaucoup vu ça en musique quand j'enseignais la musique, des personnes qui se mettaient une pression à l'apprentissage quand je leur donnais des cours, c'était incroyable quoi. Et donc tu ramènes, mais pourquoi tu joues de la musique? Ben, pour me faire plaisir. Ben alors.
Fais-toi plaisir maintenant.
Maintenant, ouais, voilà.
Commence là maintenant, ça sert à rien de.
Je rigole, mais je sais tous les enjeux psychologiques qu'il peut y avoir et qui créent cette difficulté là. Hein.
Oui.
Mais des fois, il faut juste se rappeler, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te mets une pression pareille? Au final, à la base, tu fais ça pour te faire plaisir. C'est léger, ouais. C'est tranquille, c'est un loisir.
Ouais.
Mais voilà, il y a toute une histoire souvent derrière, des choses qu'il faut déconstruire pour juste se faire plaisir. Quoi. Et donc le tachi, c'est pareil. Hein.
Mm.
Des fois, juste, c'est pas grave. Hein. On fait juste du tachi. Hein. On n'est pas en train de sauver l'humanité. Tu vois, il n'y a pas...
On peut vite oublier ça. Ouais.
Ouais, ça comme si vrai. C'était tellement important et grave ce qu'on fait, tu vois, comme si notre vie était en jeu. C'est bon.
Mm.
Surtout qu'en plus, c'est comme ça qu'on va améliorer notre tachi, pour le coup.
Oui.
En tout cas, celui-là.
Parce que tu cultives directement les qualités que tu veux consolider. Donc.
Et ça, c'est le danger, quand on parle trop de « ça doit être difficile, ça devient de plus en plus difficile quand on s'améliore », c'est parce que du coup, tu dis « ah ouais, ça devient plus difficile quand on s'améliore, donc il faut que ce soit difficile, donc il faut que ça fasse mal », et tu rentres dans un mauvais mindset, mauvais état d'esprit. C'est pas ça, l'état d'esprit. Oui, c'est sûr que quand tu progresses, ça crame les cuisses. Ouais, j'en vois un qui se plie en deux derrière, là. mais faut pas chercher ça. C'est pas pour ça qu'on fait du tai chi.
Oui, c'est pas
pour... Au contraire, tu le fais pour t'en foutre.
Ouais.
Ça crame les cuisses, et alors?
Oui.
Parce que si tu regardes comment on peut trouver ça grave à un moment donné, c'est pas grave. Et vraiment, avec l'entraînement, tu trouves ça de moins en moins grave. Vraiment.
Ouais.
Donc tu crées une capacité à te détacher de ça, quoi. Des sensations, des douleurs, etc. Donc c'est l'aspect chouette.
C'est ça que j'en parlais tout à l'heure aux collègues. Du coup, là, dans le stage, tu nous donnes les pratiques à faire, par exemple, les postures. Nous, on fait les postures du premier système. Et toi, comme tu en es au deuxième système, tu fais en même temps les postures du deuxième système et les exercices aussi. Voilà. Et moi, ce que je trouvais beau à voir chez toi, c'est parce que j'ai pu goûter un peu en Thaïlande les trucs du deuxième système. Et j'ai vu que c'était intense, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai vu que toi, tu... Enfin, en tout cas, à l'extérieur, t'as la coulitude, quoi. Enfin, non, mais je sais pas après ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Je ne sonde pas ton esprit.
Il vaut mieux qu'il sache
mais
pas.
Mais en tout cas, de l'extérieur, c'est cool, quoi. Alors que je sais que c'est difficile. Enfin, voilà. Sais que c'est intense.
Ouais, et sachant que ça devient plus dur... En s'améliorant.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et oui, c'est du coup, extrêmement difficile.
Je me dis, ouais, c'est...
Parce
c'est
que
de voir ça.
Cool, tant mieux que tu le remarques. C'est... J'en parle beaucoup.
Ouais.
Donc, j'espère que je l'incarne un petit peu, sinon... Non, mais c'est vrai, c'est bête à dire, mais j'en parle beaucoup parce qu'aussi, moi, j'ai besoin.
Oui.
Tu vois, et donc c'est toujours pareil, quand j'enseigne, c'est toujours des rappels à moi-même. Et donc, voilà, je suis là et je fais mon truc. Mais en fait, ça m'a tellement changé, moi. Ça m'a transformé de faire ce système, d'apprendre dans cette école et de faire ça. Ça m'a transformé en termes d'attitude. Et pourquoi ça m'a transformé? Parce que j'ai mis un énorme accent là-dessus. Et c'est pour ça que j'en parle aussi autant. Parce que j'en ai besoin, mais aussi parce que je l'ai beaucoup pratiqué. Quand je faisais de la musique... Quand j'enseignais la musique, moi, j'adorais le rythme. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai beaucoup travaillé le rythme.
oui.
à faire des pages de solfège rythmique, à taper et tout ça. J'adorais le rythme. Donc quand j'enseignais, évidemment, j'enseignais beaucoup le rythme. C'était un gros axe de travail. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui... C'est le cœur, en fait, de pourquoi on pratique. Et l'attitude, ouais. c'est au cœur de tout. De tout. Tout à l'heure, je disais, il y a l'exercice d'ouverture, les postures, il y a différents exercices dans notre système.
Mm.
Mais ce qui est toujours présent dans tous les exercices, le paramètre commun à tous les exercices, c'est l'état d'esprit avec lequel on les fait.
Ouais.
Et pour le coup, je suis content, toi, que tu me dises ça, parce que pour moi, ce qui m'a le plus apporté, c'est de m'entraîner avec Sifu, de m'entraîner avec lui, les élèves avancés. Tu vois, à chaque fois que j'ai pu m'entraîner de manière assez proche, tu vois, et de voir, du coup, de percevoir plus l'état d'esprit. Quand on fait un stage, il anime un stage.
Mm.
Mais il y a des fois, moi, je me suis entraîné avec eux en quelque sorte.
Ouais.
Ça veut dire qu'on était 4, 5, tu vois, et du coup, tu perçois plus dans quel état d'esprit eux, ils s'entraînent.
Oui.
Et moi, je suis assez éponge. J'en ai déjà parlé aussi avec la musique, tout ça, tu vois, d'absorber. Et moi, ça m'a énormément apporté d'être dans cette situation-là. Donc, tant mieux si ça retransparaît à ma manière, bien sûr, mais que ça retransparaît ici. Et ouais, c'est important, quoi.
Du coup, si tu devais décrire... cette ambiance justement dans les cercles un peu d'élèves avancés ou les small circles comme ils appellent.
Alors small circle, c'est pas forcément ça parce que n'importe qui peut s'inscrire.
Oui, c'est vrai.
Là, c'était vraiment un coup
pour les instructeurs.
Ils nous avaient invités, on était vraiment très très peu nombreux. Puis après, il y a des fois aussi où je m'étais entraîné avec Andy ou même avec Gabriel, juste tous les deux quoi.
Oui.
Où du coup, t'es un plus en mode, on s'entraîne et puis lui il me coach, etc.
Chacun pratique, mais ouais, il y a un ça. Peu de coaching quand même.
C'est ça. Okay. Mais c'est un peu ce que je fais là, en quelque sorte.
Ouais, ouais, ça commence à s'en rapprocher.
C'est un peu cette idée-là, quoi. Tu vois, je m'entraîne de mon côté, on s'entraîne ensemble et tout, et c'est pas juste un cours formel.
Ouais.
Ouais. C'est ça. C'est il y a une alliance, un équilibre entre le côté cool, quoi, tranquille, simple, normal, tu vois, et le côté méga intense, méga
ouais.
difficile, etc. quoi, tu vois, mais sans la gravité derrière.
Oui, c'est ça. Ok.
Ouais. Je pense que ça ce que j'essaye de faire ici. Hein.
Ouais.
C'est, on s'entraîne dur, mais voilà, c'est cool, quoi.
C'est pas grave.
Tout va bien. Faut détacher les choses. Le tai chi, c'est un peu tout ça. Cette histoire de il y a des choses qui fonctionnent ensemble, qui sont collées, il faut les séparer.
Ouais.
Tai chi yin yang, on sépare quoi. Donc avec de l'intensité, on met de la gravité, on met plein de trucs. Donc je veux séparer. Il suffit de regarder encore une fois. Je crois que j'en ai parlé, Denis, dans un de nos échanges. Si tu regardes le visage que font les personnes dans les salles de muscu.
Oui.
Donc il y a le visage qui va avec l'effort fourni.
Ouais.
Donc là, tu me dis, quand tu vois, quand je fais le truc et que c'est terriblement difficile et que, ben voilà, tu vois que je fais l'effort de...
Ouais, de rester cool
de rester
quand
cool
même.
Cool et tout ça, parce qu'en fait, je vois que ça crispe et tu veux relâcher, tu veux garder cet état d'esprit. Mais quand je fais, si je porte des poids ou que je fais des tractions, des trucs comme ça, je fais exactement la même chose.
Ouais.
Donc, si tu me voyais dans une salle de muscu, tu as peut-être l'impression que je force pas.
Oui.
Alors qu'en fait, si.
Bah oui, bien sûr.
Et des fois, c'est vraiment dur, mais...
Ouais.
Mais tu fais l'effort parce que tu veux garder cette ouverture. Et d'autres choses. Bon, je sais pas si c'est là où tu voulais amener la conversation, mais.
Si on se fait la prochaine question, encore
Allez,
le temps,
vas-y.
Tu penses ?
Allez, je fais une réponse rapide. Réponse accélérée.
Du coup, ouais, moi, il y a un truc qui m'avait intéressé ces derniers temps, c'est le travail d'un biologiste qui s'appelle Olivier Amand, qui a fait un travail sur la différence entre performance et robustesse.
Ouais.
La performance, c'est vraiment l'efficacité quantifiable d'un, je sais pas, d'une personne ou d'une machine ou de quoi que ce soit qui va faire une action. Et la robustesse, c'est la capacité à continuer notre fonction, même s'il y a des chocs, même s'il y a des problèmes. Et bref, du coup, il en déduit un peu une critique de la société où il dit qu'on est à fond dans la performance et qu'en fait, la performance, ça finit par nous fragiliser. Parce que quand tu es trop tendu vers un seul but et qu'il y a un moindre grain de sel dans le mécanisme, tout s'effondre. Enfin, voilà, je ne vais pas détailler ici ces théories. Et que la robustesse, c'est le contraire. C'est que tu es moins performant, mais tu peux continuer même si il y a une partie qui ne marche plus. Et ce qui lui, son truc, c'est de dire le vivant n'est pas performant. En gros, le vivant est robuste. Le vivant est très robuste, mais le vivant n'est pas performant. Enfin, voilà, il prend des exemples des feuilles des arbres qui ne sont pas du tout des bons panneaux solaires, par exemple, ou de choses comme ça. Et du coup, moi, ça m'a un peu fait penser au tai chi, où par la pratique du tai chi, on apprend à pouvoir recevoir des poussées, à rester cool et à pas forcément être perturbé, mais pas forcément à être performant en combat ou à être ou à avoir notre esprit qui est dirigé vers un but précis qui dépend d'un seul paramètre. On essaye d'avoir plus une espèce de calme, d'ouverture globale, et c'est moins axé vers un paramètre. Enfin, j'ai l'impression. Du coup, toi, qu'est-ce que tu...
Je sais pas quoi.
À quoi ça te fait penser? Du coup, est-ce
moi,
que
ça
tu
m'évoque
serais
un
d'accord
truc
avec ce truc-là?
Moi, ça m'évoque un truc. Je sais pas si c'était ça que tu pensais.
C'est un peu plus une question pour susciter
une discussion. Une discussion, quoi. C'est que il peut y avoir des styles de tai chi où les maîtres ont développé une façon d'enseigner qui tourne autour d'un principe en particulier, un seul, enfin un en majorité, quoi. Et un peu tout repose là-dessus. Parce qu'il a trouvé un truc, par exemple, et du coup, tout va reposer là-dessus. Et ce que là où je trouve que, enfin, j'allais dire là où je trouve qu'Adam est vachement fort. En fait, c'est pas.
Tu peux le dire. Hein,
parce que c'est pas que là. En fait, c'est qu'il c'est pas le seul.
Oui.
Mais c'est qu'il est vaste dans ses compétences.
Ouais.
Tu vois, t'as des personnes qui vont avoir, par exemple, peut-être un bon jean, une bonne force interne.
Ouais.
Mais il faut que les personnes en face bougent pas.
Oui.
Ou t'aies une capacité à utiliser leur chi, on va dire. Allez, je prends
du risque, le mot interdit.
À développer un autre type de puissance interne qui va faire que tu vas projeter quelqu'un, etc. Mais si la personne ne bouge pas, ou qu'elle bouge, mais qu'elle est très conciliante.
Comme
quoi.
Tu lui as dit.
Mais en général, c'est les personnes, tu lui dis, tu te mets comme ci, comme ça, et puis ça va marcher que si tu te mets comme ci, comme ça, par exemple. Tu vois. Donc ça va marcher. T'as des personnes autres qui vont pas avoir trop cette compétence de jean, de force interne, mais qui vont être capables d'être bons en travail à deux.
Ouais.
Tu vois, à gérer des pressions en bougeant de différentes manières. Hein. T'as plein de manières de gérer
qui vont avoir la pression. Beaucoup de mains intelligentes.
Si on parle des bonnes compétences, enfin, ce que moi j'estime être des bonnes compétences, ça peut être les mains intelligentes, etc. Mais voilà, il y en a qui vont être capables d'être vachement stables quand on les pousse.
De canaliser, d'avoir du...
Mais ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à projeter ou que, tu vois. Et en fait, tu as des gens qui sont plutôt bons dans un domaine particulier par rapport aux autres.
Ouais.
Adam est quand même bon un peu dans tous les domaines, quoi. Et en plus, même si on n'y a pas de vidéo, on le voit combattre, vu son passé, son expérience, je sais qu'il serait capable de se battre. Après, c'est marrant, dans il y a un podcast, je crois, un des derniers podcasts où il discute avec Damo, où Damo dit que quelqu'un lui a demandé si Adam pouvait se battre dans un ring, je crois, dans une cage, et qu'il a dit non, et l'autre lui a dit pourquoi, et il dit cardio.
c'est
sûr. Parce qu'effectivement, en fait, s'il n'a pas entraîné le cardio spécifiquement pour ça, et puis que ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné et que tu t'es pas battu et que tu t'entraînes pas au combat, c'est une compétence à part entière, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit, nous, dans notre école, là, donc le système, c'est quoi? C'est ouverture, posture, son gong, forme, travail à deux, c'est quoi? On peut englober tous les tests de poussée, de pression, le grinding et tout ça.
Ouais.
Et puis, il y a tous les patterns à deux, les twishu, les trucs codifiés. Puis après, on peut aller sur du freestyle, mais ça reste des poussées des mains, c'est pas du combat.
Oui.
Ça veut dire que le combat, faut l'entraîner comme une discipline à part entière. Si t'as pas entraîné ça, t'as beau avoir développé tous les autres aspects, tu vas pas d'un coup devenir un combattant, quoi. Tu vois, donc, en fait, tout le système, il va te donner la compétence à générer de la puissance, à avoir tout un type de transformation de ton corps et de ton esprit, mais après, la capacité à l'utiliser pour aller se battre dans une cage ou quoi, ça demande un autre type d'entraînement. Déjà, timing, placement avec la vitesse de vrais, des vraies vitesses, tu vois, faire des vrais sparring avec des vraies vitesses, etc. Ce qui change complètement la donne, avec des pressions beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides, etc.
Rapide, erratique.
Voilà, exactement. Et après, il faudrait aller vraiment se combattre et tout ça. Donc, c'est un autre... Disons que c'est un autre axe de travail, quoi, ouais. qu'il faudrait vraiment faire. Je sais pas pourquoi je parle de ça, là. C'était quoi, le sujet?
Non, mais le sujet, du coup, c'était la différence entre performance et robustesse. Et du coup, j'ai l'impression que quand même le tai chi qu'on pratique... privilégie quand même beaucoup la robustesse, c'est-à-dire de construire une créature qui soit à l'épreuve des chocs.
C'est ça. Et ça, du coup, ça m'a amené sur
efficace dans un seul domaine.
Voilà, ça m'a amené sur la multi-compétence d'Adam et sur le fait que du coup, le système qu'il enseigne, pour moi, il est vraiment complet.
Ouais.
Il est vaste. On n'entraîne pas un truc.
Mm.
Tu vois, on entraîne Song toujours parce que c'est le moteur, etc. Mais il y a plein d'aspects. En fait, ouais. Et c'est là. Lui d'ailleurs, il prend souvent l'exemple d'un diamant et qu'on polie chaque facette du diamant. C'est ça qui fait sa beauté. Et donc chaque facette fait le système. Il n'y a pas un truc. C'est pas le secret, c'est les postures ou le secret, c'est tel truc. C'est assez vaste. Donc finalement, le champ de transformation, il est quand même assez vaste.
Ouais.
Et tu changes physiquement, parce qu'on ouvre le corps. On fait les postures, ça nous rend fort dans les jambes. On change mentalement en acceptant cette difficulté. On se crée des pressions, on se pousse. Il y a multiples changements, effectivement. Donc, dans ce cadre-là, je pense que oui, ça développe la robustesse, dans le sens aussi où ça développe notre capacité à endurer.
Oui.
Et à continuer à fonctionner, même quand... ça déconne et qu'on n'a pas envie et ça développe notre capacité aussi à faire des efforts.
Ouais. Ça, j'ai du coup un truc que je pourrais partager à ce niveau-là. C'est moi, les changements que j'ai vus dans ma vie, c'est dans deux choses. C'est que le tai chi, ça a grandement contribué à me libérer d'une addiction. Déjà, parce que une addiction, ça part beaucoup du principe que tu ne peux pas supporter de ne pas prendre le produit. Bon, là, en l'occurrence, c'était le cannabis. Et du coup, le fait d'arriver à supporter l'inconfort en restant cool, en fait, ça m'a permis de pouvoir supporter de ne pas fumer et de me dire « Ok, c'est pas grave, cool. Mm. » Et voilà. Et du coup, c'est l'occasion de te remercier parce que c'est à l'occasion d'un stage avec toi que j'ai arrêté. Et du coup, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et depuis, rien. Donc ça, c'est... Voilà, par exemple, ça a été un bienfait inattendu.
Mm.
Que je me suis dit, ah ouais, en fait, ça m'a vachement aidé pour arrêter ça. Et aussi, du coup, j'ai eu un enfant l'année dernière. Et pareil, là, pour encaisser les nuits avec peu de sommeil et le lendemain, l'enfant qui crie et devoir gérer t'es en couple avec une personne qui est fatiguée aussi, qui est émotionnelle aussi. Du coup, il faut être facile à vivre et il faut pouvoir encaisser les chocs. Ah ouais, toi, tu as eu cette expérience-là aussi.
Le système nerveux est mis
à l'épreuve. De pouvoir encaisser ça avec du calme et avec quand même de l'ouverture. Après, tout le monde a ses failles. Et bien sûr, je ne suis pas resté tout le temps comme un Bouddha, mais j'ai vu que ça m'avait aidé. Quoi.
Moi, je ne faisais pas système quand mon
fils est né. Quand...
voilà. Ça aurait été sympa.
Ça aurait pu aider.
Ouais, non, c'est sûr, c'est éprouvant. Effectivement, n'importe quelle pratique, en fait, pour moi, elle devrait rendre la vie
meilleure,
plus facile.
C'est plus cool.
Ouais. Et ça devrait nous rendre plus ouverts, plus cool, moins réactifs. Donc, pas l'inverse.
Ouais,
tu vois, si ça crée des idéaux et que les personnes qui suivent pas nos idéaux sont insupportables. Pour moi, c'est pas ça, parce que c'est pas fait pour me rendre comme ça, quoi. Il faut que ça me rende au contraire plus capable de discuter avec des gens qui pensent différemment de moi et à traverser les difficultés. Voilà. Après, les difficultés, elles ont pas toutes les mêmes niveaux de pression, on va dire.
Mais, ouais, ça c'est sûr.
Mais c'est clairement un endroit où on peut voir nos progrès. Si on revient à la question précédente, en tout cas, mais on va s'en connecter. Parce que c'est dans la robustesse, effectivement, qu'on devrait voir nos progrès, notamment.
C'était Sifu qui disait, je crois que c'est lui qui disait, que si tu veux voir un, comment dire, évaluer un peu un prof de méditation, tu regardes son comportement quand il crève une roue de voiture. Quand il crève une roue de sa voiture.
Ah oui. Oui, oui.
Tu vois, de voir s'il s'énerve ou pas, quoi. Mm. En gros, quand il traverse, regarde les gens dans l'épreuve et tu découvriras s'ils sont cool ou s'ils sont tranquilles. Ouais. Parce que c'est facile d'être cool autour d'une bière, assis confortablement. Ouais.
C'est ce que je disais l'autre fois, mais après, la difficulté, c'est que tu ne peux pas fréquenter tes professeurs et tes maîtres dans le quotidien, quoi.
Oui.
Rarement cette occasion.
Ça, c'est vrai.
Donc, tu vois, même moi, peut-être... je fais genre, je suis cool et tout, et puis dans la vie...
Mais en fait...
on ne sait pas.
Tape des crises de colère.
Ah, c'est vrai, on ne sait pas.
Jette tout la vaisselle, partout dans la maison.
Et souvent, je dis, ma femme, ouais, vrai, ma femme a été une des personnes... Je parle souvent de... Parce que la première année, c'est vraiment là où il y a eu un gros changement pour moi quand j'ai fait ce système. Et ma femme m'a vu changer. Et souvent, je dis, ouais. Bah, si ma femme a vu changer, c'est que vraiment... une oui. Preuve de la réalité du changement. Si même elle le dit, c'est que c'est vrai.
C'est ça.
Puis j'ai la chance d'avoir une épouse qui n'est pas... comment dire ? Elle ne va pas me dire ça pour me faire plaisir, quoi.
Ok.
Tu vois...
ouais, qui est honnête, ouais, qui ne te brosse pas dans le sens du
truc
poil.
Si, okay. Si c'est vrai, ou voilà.
Ça, c'est bien. Mm. C'est un beau cadeau d'avoir une personne sincère à ses côtés.
Et ouais. Vu mon système, je crois que ça ne pouvait pas être autrement.
Ouais, c'est ça. Oui, la sincérité aussi.
Ouais, c'est ça,
c'est tout ça. Tout
ah oui, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de progrès et tout ça dans les postures. Et ouais, ça, c'est. Pour moi, la capacité à être sincère, à voir les choses telles qu'elles sont, elle est reliée à notre capacité à endurer l'inconfort.
Ok.
Parce qu'une des raisons pour lesquelles on peut se cacher la vérité, etc., c'est parce qu'on n'est pas prêt à affronter l'inconfort.
Oui.
Même les émotions, tu vois que par exemple, gamin, on peut refouler des émotions parce qu'elles sont trop puissantes, puis elles ressurgissent plus tard. Mmh. Tu as déjà entendu ce genre de... Pour ça, il y a plein de thérapies hein, qui te font ressurgir.
Principe de refoulement, de,
ouais, c'est qu'il y a des émotions,
les traumas.
Il y a des émotions, juste le mouvement émotionnel est trop fort et inconfortable, en fait.
Ouais.
Mais si tu es capable de... Oh, c'est juste une sensation. C'est puissant et tout, mais c'est juste une sensation, c'est pas grave.
Ouais.
Tu vois, du coup, tu la bloques pas. Donc, c'est la capacité à tolérer l'inconfort, c'est-à-dire cette sensation qui est perçue comme inconfortable ou qui est étiquetée comme inconfortable.
Du coup, tu veux dire que, en fait, on devient plus cool et plus tranquille, mais parallèlement, on vit plus pleinement même les émotions qui nous traversent et les sensations.
Ouais,
comme c'est pas grave, on peut les vivre pleinement. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de thérapies émotionnelles, j'en ai fait moi-même, où du coup, on laisse monter les émotions. Mais du coup, on gueule et on jette des coussins par terre. Et... Enfin, tu vois, toutes ces thérapies où on fait sortir les émotions à l'intérieur de nous sous la forme, et c'est, comment dire, c'est verbalisé, c'est dans les paroles et dans les gestes et tout ça. Tandis que là, elle...
Bah, je sais pas, peut-être ça peut être utile
certains moments et dans certains cas.
Oui, voilà. Mais en tout cas, ce que ça produit... moi, ce que je peux voir maintenant avec les années et l'expérience, c'est qu'effectivement, toutes ces heures à faire des postures, à voir que ça brûle finalement à trouver que ce n'est pas grave, à laisser cette sensation se produire, ça donne la capacité à quand une émotion ou un truc, une sensation désagréable arrive, eh bien, en fait, c'est pas grave.
Mmh. Parce que quelqu'un d'extérieur pourrait te dire, tu réprimes ton émotion. Genre, je te vois pratiquer, c'est intense, et t'as le visage qui reste cool et tout ça. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais tu réprimes tes émotions.
Non, en
fait,
c'est juste...
Tu t'autorises pas à le vivre complètement ou des choses comme ça.
Non, c'est que... Ouais, en fait, dans ce cas-là, ce qui peut donner... Regarde, tu fais une posture. Ou un exercice qui est extrêmement physiquement difficile.
Ouais.
Si cette difficulté physique n'est pas un problème, ça crée pas d'autres... Ça crée rien d'autre. C'est juste une sensation physique.
C'est qu'un inconfort.
Oh, c'est intense, ça brûle. Okay. Par contre, si je la refuse, là, ça va devenir autre chose.
Okay.
Ça va devenir une souffrance mentale, ça va devenir une émotion. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir plein de choses qui commencent à... Et donc là, ça crée... Donc c'est pas que je laisse pas... C'est pas une histoire de laisser l'émotion s'exprimer ou pas, c'est qu'en fait, elle apparaît même pas parce que c'est pas un problème. Parce que j'ai enlevé cette relation entre... l'intensité ou cet inconfort physique et ce que ça génère, tu vois ce que je veux dire.
Okay.
C'est comme n'importe quel sujet qui peut créer de l'émotion. Tu vois, il y a des personnes, si tu leur parles d'argent, ça va créer plein de choses émotionnelles ou d'autres sujets. Mmh. Et... Mais si tu t'en fous de ce sujet.
Oui.
Il y a des mots que je vais dire, toi ça va rien te faire, puis je vais les dire à quelqu'un d'autre, ça va lui rappeler des trucs, des souvenirs, et donc ça va créer de l'émotion.
Oui.
Tu vois, mais c'est exactement le même sujet, ça veut dire que toi t'es pas en train de réprimer l'émotion, c'est juste que ça te fait rien, toi.
Oui, oui, c'est ça.
Je donc vois. Moi, ben, quand je m'entraîne, à force de s'entraîner et de faire, ben, ça brûle les cuisses alors.
Ouais.
Bah ben ouais, alors. Ben, petit à petit, ta capacité à ce que ce soit pas un souci augmente.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc il faut que ça devienne beaucoup plus difficile pour que ça devienne un problème.
Ouais,
okay. Et toi, je me vois, ah là, ça y est, je commence à en faire un problème. Ok, ah, ah c'est plus un problème.
Et oui.
Et ça fait partie, du coup, ça fait partie de l'entraînement.
Ouais. Du coup, il faut que l'exercice t'amène jusqu'au point où ça devient un problème à l'intérieur de toi.
Enfin, c'est, pas, presque, c'est pas qu'il faut, presque. Mais si c'est ça que tu veux entraîner, bah oui. Si tu veux t'entraîner à relâcher face à l'inconfort,
ouais.
T'es obligé d'aller dans l'inconfort.
C'est ça.
Pour, ouais. Pour t'entraîner à relâcher face à l'inconfort. Sinon. Tu vois, ouais, ça, ça n'a aucun sens. Tu
n'entraînes jamais le truc exactement. Que tu veux cultiver. Bah ouais, ça n'a pas de sens. Ouais.
Si tu veux augmenter tes muscles, il faut que tu portes ton poids jusqu'à ce que ça te brûle ton muscle.
Ouais.
Pour qu'il augmente, tu vois. Pour faire simple. Donc tu veux cet endroit où ça brûle, sinon. On parlait de pompe tout à l'heure. On disait tant de pompes, si au bout d'un moment tu t'habitues, ça ne te fait plus rien. Donc si tu veux augmenter ta force ou tes muscles, bah, faut que tu ailles à l'endroit où, pas où ça te fasse plus rien. Si tu veux l'augmenter, oui. Hein, si tu veux changer.
Si tu veux progresser.
Si tu veux augmenter ta tolérance à l'inconfort, faut que tu ailles à l'endroit où c'est inconfortable. Faut que tu trouves cette limite-là et que tu changes ta manière de réagir quand ça arrive.
Ouais. Ok. Et du coup, ben, peut-être pour conclure, ma question, ce serait quelqu'un qui veut se lancer dans Tai Chi, peut-être qui aurait fait d'autres sports avant. Je sais pas, un peu comme si quelqu'un se rendait dans un pays étranger où tu aurais déjà été toi et tu lui dis ben je te préviens, faut surtout pas mettre les coudes sur la table ou je te préviens, il faut faut bien prendre voilà, je sais pas, faut dire bonjour de
faire
de
voilà,
faut pas regarder les gens dans les yeux, je sais rien, peut-être qu'il y a des coutumes un peu du coup quelqu'un dans le même état d'esprit, si quelqu'un veut commencer le tai chi, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il entame le tai chi dans un bon état d'esprit et que...
Qui viendra dans notre école conseil.
Ouais, voilà.
C'est compliqué à dire parce que tu as tellement de gens différents, de cas de figure différents. Tu vois, tu as des gens qui vont venir pour les bonnes raisons. Je dirais, les bonnes, ça veut dire des raisons qui correspondent à ce que la pratique peut leur apporter. C'est ça que j'entends par des bonnes raisons. Et donc, ok. Et puis des personnes qui ne vont pas venir pour ces raisons, parce qu'ils ne comprennent pas tout l'enjeu qu'il y a derrière. Mais qui vont démarrer, ça va leur plaire, et puis petit à petit, ils vont comprendre tout ce qu'il y a derrière, et ils vont adhérer aussi.
Ils vont construire le sens donc, au fur et à mesure.
Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas forcément... Par contre, peut-être le seul truc que je peux dire, que de toute façon, je dis à tous les gens quand même, en général, qui démarrent, et en fait, sur la page d'accueil de mon site des cours de Lyon, enfin, HM Lyon, il y a un petit truc, c'est fait pour vous aussi, ou pas pour vous aussi, enfin, je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là, pour détailler. Mais en gros, je dirais, faut être prêt à faire des efforts et éprouver, quoi. C'est ce qu'on vient de dire, quoi. C'est-à-dire que ça ne va pas être une séance de relaxation allongée. Et parce qu'il y a des personnes qui démarrent les cours tai-chi en imaginant que ça va être ça.
Oui.
Donc, juste de prévenir, non, ça va être quand même physique, ça va être intense. Et donc, faut venir quand même dans cette idée où on va pas passer notre temps allongé. Ça va brûler les cuisses, quoi. Voilà.
Ok.
Mais ça va te renforcer.
Ouais.
Tu te renforces pas en faisant des siestes.
Ça, c'est bien vrai.
Mais on a besoin de dormir pour bien se reposer. Par contre, c'est très important le
sommeil. Oui, ça, j'ai bien compris. Ouais.
C'est quand tu l'as plus que tu te rends compte.
Ça, j'ai bien compris que là, avec les manques de sommeil de nos nouveaux papas... Je ne pouvais pas m'entraîner aussi intensément qu'avant, parce que sinon... Mais c'est bien aussi d'apprendre justement à adapter son entraînement à la réalité de sa vie.
Cool. Je reviens sur, juste pour terminer,
les
histoires de dépendance, etc. Moi, j'ai un côté obsessionnel.
Ouais.
Et donc, je peux être facilement dépendant. je pourrais développer des trucs comme ça. Et j'ai vraiment vu l'impact de la pratique là-dessus aussi.
Oui.
Et particulièrement quand je m'entraîne avec Sifu. Donc je suis dedans, j'ai que ça à penser, voilà, aussi il y a ça, hein. Et pendant une semaine et tout, l'état après la semaine, quoi.
Ouais.
Ce qui est très difficile, c'est de retrouver ça tout seul chez soi. Enfin, ce qui est impossible, en fait, en vrai, vraiment.
Oui.
Tu peux te rapprocher au plus près et tout ça, mais c'est compliqué. Mais de voir, je reviens encore vraiment, même mentalement, c'est souvent à l'inverse de ce qu'on pense. C'est mentalement, j'ai pas le feu. Je parle pour moi là, hein, personnellement.
Ouais.
Et là où j'aurais le moins envie, où je vais me donner des excuses pour pas, parce que là, voilà, en fait, si je m'entraîne dur,
ouais,
ça va casser tout ce que je croyais qui était de ouais, mais. Et en fait, je vais retrouver une pêche.
Ouais.
Et ça paraît pas logique. Tu vois, parce que j'ai pas l'énergie, donc si je m'entraîne fort, je vais brûler alors que j'ai pas la pêche. Mais en fait, à chaque fois que je suis en stage et que bah, t'y vas parce que t'as pas le choix.
Oui.
Enfin, tu vois, t'es en stage, t'es là pour ça. Et donc, tu te rends compte, mais en fait, ça va, quoi. Et même okay, là, en stage, hein, du coup, je suis obligé parce que j'anime, tu vois, le stage, donc j'enseigne. Et à chaque fois que je m'entraîne fort, des fois, je suis physiquement cuit, tu vois, à la fin, surtout quand tout l'été, là, je donne beaucoup de stages et tout ça, mais je suis toujours mieux, beaucoup mieux après qu'avant.
Ouais.
Ça reste. Ouais. Mais c'est dur de se mettre un coup de pied aux fesses tout seul.
Ouais, c'est vrai.
Et d'aller aussi loin, hein, c'est encore une fois l'intérêt du stage, quoi. Fait les postures. Enfin, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que ça vous pousse bien plus loin que.
Oui, tout seul à la maison. Fait d'habitude chez soi.
C'est obligé.
Ouais, c'est sûr. Pour ça qu'on vient. Cool.
Bon, bah, merci beaucoup pour
cette
petite opportunité de podcast.
Merci à toi. Ça faisait un moment, du coup, que j'avais envie d'approfondir ces sujets avec toi et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Bon, bah, merci. Et puis, merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Je ne sais plus à combien on en est, mais on s'approche de. Du 100e podcast. Il faut que je fasse un truc un peu spécial pour 100e podcast. Ah ouais. Faut que j'y réfléchisse. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle pratique et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr. Et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.